Alors, il y a quoi, une quarantaine de médecins de famille, de pédiatres, de psychiatres, de spécialistes qui signent une lettre ce matin pour justement dénoncer la surprescription de Ritalin. C'est dans le Journal de Montréal. Et ce qui frappe, ce sont les chiffres, les données les plus récentes de l'Institut de la statistique du Québec qui démontrent que le nombre d'élèves du secondaire ayant un niveau élevé de détresse est passé de 21 à 29 % La proportion d'ados au secondaire qui ont un TDAH confirmé par un médecin ou un autre spécialiste est passé de 13 à 23 % Et chez les gars, c'est 27 % Puis ajoutez à cela le trouble anxieux. Or, c'est en croissance continue et ça veut dire, évidemment, de plus en plus d'enfants qui sont médicamentés. J'en parle avec un des signataires de cette lettre, Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences et directeur de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. Monsieur Monzé, bonjour.
Bonjour.
D'abord, je veux juste revenir sur les chiffres, là. Ça veut dire que le nombre d'enfants qui prennent des médicaments au Québec est en constante croissance.
Oui, mais en fait, ça fait des années en fait qu'on constate cette croissance-là. Mais avant, on n'avait pas un portrait aussi défini que celui que nous a donné l'Institut de statistiques du Québec depuis décembre dernier. C'est-à-dire que mes collègues pédiatres, eux, voient ce qui se passe dans leur bureau. Moi, je vois ce que je vois dans ma pratique clinique ou dans les formations que je donne dans des écoles où les directeurs d'école, les enseignants me parlent de leur réalité au quotidien. Et jusqu'à présent, on avait souvent des chiffres qui venaient d'IMS Health Canada, mais c'est le nombre de pilules, donc on ne peut pas savoir le nombre de patients. Puis on a eu la RAMQ qui nous a donné les chiffres de l'assurance médicaments, mais ça ne couvre que l'assurance publique et pas les assurances privées. Donc, c'est la première fois que nous avons un portrait aussi clair que celui qui est sorti en décembre. Et c'est ça qui a alerté mes collègues et moi-même. Attention, là, on est allé vraiment probablement trop loin.
Alors, ça veut dire, là, si je résume bêtement, là, pratiquement un enfant sur quatre au secondaire a donc besoin de médicaments, entre guillemets. Comment vous expliquez? Pourquoi vous me dites on est allé trop loin?
Mais en fait, si on prend simplement le diagnostic du TDAH où on a 23% des jeunes et ça monte dans certaines régions à 33%, si on regarde l'anxiété généralisée où on est à 17%, ça veut dire que pour ces deux diagnostics-là, on a déjà 40% des jeunes qui sont hypothéqués dans nos écoles. Et là, on va parler en plus de l'autisme, le syndrome Gilles-Latourette et tous les autres symptômes qu'on peut voir chez d'autres personnes. Donc, quelque part, jusqu'à présent, on a trop cru que c'était juste l'enfant qui était porteur d'un handicap, porteur de quelque chose qui n'allait pas. Et quand on voit les proportions où on bat tous les standards qui existent, quand on parle, par exemple, le DSM qu'on critique abondamment depuis des années, qui est notre bible en psychiatrie, on parle de 10% des enfants qui seraient éventuellement porteurs du TDAH. Mais 10%, comment ça se fait qu'on est à 23?
Ben là, je vous pose la question, comment ça se fait qu'on est à 23?
Mais c'est parce que, bien souvent, on confond, en fait, les symptômes, dans le sens qu'un enfant, un garçon qui est anxieux, un garçon qui est hyper stressé, va avoir tendance à réagir avec beaucoup d'impulsivité et d'hyperactivité. Mais c'est du stress, c'est de l'anxiété, c'est éventuellement un stress post-traumatique, et ce n'est pas nécessairement du TDAH. Donc, si on lui donne du Ritalin, eh bien, on se trompe de direction thérapeutique, on ne répond pas à ses détresses. Peut-être qu'on va camoufler la détresse, mais on ne répond pas à ses besoins en termes d'intervention psychosociale ou d'intervention médicale. Et c'est dans beaucoup de situations comme ça. Puis, ça fait une quinzaine d'années que régulièrement, je parle de ce phénomène-là dans la presse. Et je dis, je m'inquiète pour les enfants qui bougent beaucoup, qui partent dans la lune, mais je m'inquiète encore plus pour les enfants qui sont sages. Et justement, les enfants qui sont sages, aujourd'hui, développent de plus en plus d'anxiété généralisée. Et il y en a de plus en plus qui ne sont plus scolarisables parce qu'ils sont plus capables d'aller à l'école.
Il y a un médecin de famille qui m'a écrit ce matin, puis je vous soumets ses commentaires, puis vous me direz ce que vous en pensez. C'est que le médecin de famille, donc médecin de première ligne, a, je dirais, souvent un petit questionnaire à faire passer. Ce médecin me dit, d'ailleurs, si on se fie qu'au questionnaire qui est suggéré, c'est pas tellement précis. Et qu'en plus, pour avoir vraiment un bon diagnostic, donc, je pense à vous, là, une évaluation en neuropsychologie, il faut aller au privé, et que ça coûte très cher, ce qui fait que le médecin se retrouve avec un enfant à qui il va donner le médicament. La surutilisation du médicament, ça s'explique peut-être pas au complet, là, mais en partie par la difficulté d'accès, d'avoir une évaluation plus précise.
Oui, et encore cette évaluation plus précise, il faut encore reconnaître, est-ce qu'on va vraiment aller regarder l'ensemble des choses? Parce qu'un test, aussi bon soit-il, si je prends un test qui veut déterminer le TDAH, ben, il y a de fortes chances que je ne regarde que le TDAH, alors qu'un enfant, comme je le disais tantôt, qui est en stress post-traumatique, qui surréagit, donc c'est sa force de survie qui est là derrière, qui va peut-être déranger, mais qui peut être confondu, en fait, avec de l'impulsivité, avec de l'hyperactivité. Le test de neuropsychologie ne va pas nécessairement nous donner. Donc, il faut prendre le temps. Moi, j'ai la chance, ça fait 22 ans que je suis dans une fac de médecine, je ne suis pas médecin, mais ma pratique clinique, c'est de la psychothérapie. Autrement dit, comme je ne peux pas utiliser le médicament pour traiter les personnes qui viennent me rencontrer, pour aborder leur détresse, il faut que je fouille, que je fouille, que je fouille, que je regarde. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un paquet de choses qui se passent dans la vie de la personne qui peuvent expliquer autrement les symptômes, d'où les livres que j'ai sortis depuis quelques années ou les entrevues que je peux donner comme aujourd'hui.
Monsieur Monzé, je vous écoute là, puis là, j'ai deux séries de questions. La première, là, il y a des parents qui vous écoutent ce matin et qui ont des enfants qui prennent du Ritalin et qui vont se dire, mais c'est quoi le problème? Il va mieux depuis qu'il prend ça. Il est meilleur à l'école, il a un meilleur comportement, ça va bien dans son cas. Je ne suis pas pour lui enlever ça, là.
Non, et c'est ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut l'idée, c'est que pas que les gens se sentent coupables, mais que les gens réfléchissent. Et quand je dis les gens, c'est tout le monde, c'est toute notre société au Québec qui doit prendre le temps de réfléchir à ça. Dans le sens que oui, le médicament va aider. Le médicament, c'est un psychostimulant, va faire en sorte que la concentration va être plus efficace, l'enfant va être mobilisé sans se poser de questions, il va faire ce qu'on lui demande, et oui, ça peut aller mieux. Donc quelque part, oui, on va voir ça, et c'est ce qui va pousser bien souvent la prise d'un médicament, ça c'est une solution qui aide. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure manière de l'aider d'un point de vue développemental, d'un point de vue social, quand on voit le nombre d'enfants qui sont sous médication?
Ma deuxième question, et là, c'est justement, là, une fois qu'on a dit ça, qu'il faut prendre le temps concrètement. M. Monzé, là, on fait quoi, là? Moi, j'ai un enfant, mettons, là, puis je le trouve, là, je me pose des questions, puis l'école me dit, ben ça serait le fun de le faire évaluer. Puis là, il faudrait peut-être que j'aille au privé, puis mon médecin dit, ben regarde, je peux y donner du Ritalin en attendant, puis souvent, il y a même une certaine pression scolaire qui est faite pour que l'enfant soit médicamenté. Tu fais quoi comme parent là, quand tu es en attente de savoir ce que ton enfant a?
Mais disons que devenons des scientifiques, dans le sens que expérimentons ce qui se passe dans notre famille. Qu'est-ce qui se passe quand on réduit les écrans? Qu'est-ce qui se passe quand on passe plus de temps de qualité avec nos enfants? Qu'est-ce qui se passe quand on ne court pas à gauche ou à droite d'une activité sportive à une autre? Parce que oui, on doit faire du sport, mais c'est peut-être pas toujours du sport orthonormé dans un club sportif qu'il faut faire. Qu'est-ce qui se passe quand on modifie notre manière de manger? Si on prend par exemple moins de nourriture industrialisée, il peut y avoir des changements de comportement. Qu'est-ce qui se passe si papa et maman arrêtent de chamailler, surtout s'ils ne vivent plus dans la même maison? Qu'est-ce qui se passe si on rend les interventions cohérentes entre les deux maisons ou avec l'école? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on soutient mieux, quand on donne du temps à l'enfant pour l'écouter et l'accompagner dans ses ambiguïtés, dans ses contradictions, dans ses pulsions parfois? C'est que oui, ça prend du temps, et si nous ne le prenons pas, nous, en tant qu'adultes, c'est certain que ça va faire des enfants en souffrance.
Merci beaucoup, M. Monzé.
Avec plaisir.
Au revoir, bonne journée. Joël Monzé est docteur en neurosciences et directeur de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille et signataire de la lettre ouverte. Appelons ça une émission réalité ce matin. Là. On sort du ministère de l'Agriculture qui congédie un gars qui aide les producteurs, qui dit la vérité, congédié par le ministre lui-même, démonstration de l'influence du privé puis des lobbies de toutes sortes, au détriment de la population. Puis là, on pourrait ajouter tout le volet santé de l'utilisation de l'ensemble de ces produits chimiques dans l'environnement. C'est ça, on ne parle jamais de ça. Là. Quand on parle de problèmes de santé cardiaque, de cancer, de maladies neurologiques, on dit, bon, qu'est-ce que vous mangez? Fumez-vous? Faites-vous de l'exercice? T'sais, on ne dit jamais, mais dans quel coin vous habitez? Puis quelle sorte d'environnement vous êtes? Puis je le dis très, très clairement, dans le cas des produits chimiques. Mon père est mort des suites du Parkinson. Mon père était agronome. Mon père a passé sa vie dans des champs. Ça ne donne pas la maladie, mais ça peut l'activer. Et hier, j'échangeais avec d'autres agronomes, et un entre autres qui dit, mon père était aussi agronome à l'époque de votre père, puis lui aussi a eu le Parkinson. Un ami m'a écrit en disant, un autre qui vivait dans un verger a développé le Parkinson. Peux-tu se poser des questions, le lien là, entre la maladie de Parkinson puis les produits chimiques dans l'environnement? Puis là, on voit des enfants là, qui... Quand tu y penses, là, autant d'enfants anxieux, autant d'enfants qui ont des problèmes d'attention, autant d'enfants qui sont stressés, puis autant d'enfants qui prennent des médicaments, quand même, là, il faut y penser un peu. On va aller retrouver Marc. On va revenir sur la voie rapide pour voir un peu comment ça roule.